Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Le diagnostic de performance énergétique reçoit une mauvaise note de la part du Conseil d'analyse économique. La mort de Thierry Desmarais, PDG de Total pendant 15 ans. Et puis les stars du basket américain sur un parquet parisien. Match événement de NBA ce soir dans une France fan de ce sport. Il est incontournable et redouté, voire détesté, le DPE, diagnostic de performance énergétique, avec ses étiquettes de A à G et même G+, selon la consommation d'énergie du logement. Le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme rattaché à Matignon, met en cause sa fiabilité, Zoé Pallier.
Le diagnostic de performance énergétique surestime très largement l'écart entre la consommation d'un bien immobilier classé G et celle d'un logement A ou B. Cette différence est 6 fois moins élevée dans les faits que dans le modèle théorique, explique Ariane Salem, chercheuse au Conseil d'analyse économique.
Le DPE, lorsqu'il modélise la performance énergétique, il le fait de manière imparfaite. Il est difficile de quantifier très exactement la performance énergétique des matériaux, parce que le matériau va se détériorer, parce qu'aussi il va y avoir une hétérogénéité dans la qualité des rénovations.
Surtout, le calcul du DPE n'intègre pas les habitudes de consommation qui changent pourtant selon la performance énergétique du logement.
Les ménages vont avoir tendance à réduire leur consommation lorsqu'ils sont dans des logements moins performants, parce que ça leur coûte cher de se chauffer. Et au contraire, dans des logements plus performants, ils vont consommer au-delà de la cible théorique de 19 degrés.
Pour cet économiste, il faut donc perfectionner le DPE, mais aussi inciter à davantage de sobriété ceux qui vivent dans des logements bien isolés.
Zoé Pallier, à propos d'énergie, les prix d'électricité vont augmenter de 10% au 1er février, c'est quasiment certain désormais, soit en moyenne une facture alourdie de 100 euros sur l'année. Pourtant, les prix sur les marchés reculent légèrement, mais cette hausse est le résultat de la fin du quoi qu'il en coûte. Le gouvernement avait réduit quasiment à zéro la taxe sur l'électricité pour limiter l'impact de la guerre en Ukraine et de l'explosion des cours. Ça va donc se terminer. On y revient avec Étienne Lefebvre à 7h10. Merci, cher président. Merci, Thierry. L'hommage de l'actuel PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, à l'un de ceux qui l'ont précédé, Thierry Desmarais, patron du pétrolier pendant 15 ans, de 1995 à 2010. Éric Mauban, Thierry Desmarais, qui est mort donc hier, avait fait de Total un géant mondial.
Absolument, c'est lui qui a mené une série d'acquisitions qui a permis à la compagnie de rester un acteur majeur de l'industrie pétrolière. C'est lui aussi qui a piloté en 1999 l'acquisition de Petrofina, entreprise belge spécialisée dans la pétrochimie. Un an plus tard, il a lancé Total à l'assaut de son concurrent, Elf, par le biais d'une OPA non sollicitée. Une bataille difficile, remportée après 9 semaines de haute lutte, qui a permis à Total d'occuper le 5e rang dans son secteur et de devenir un poids lourd international sur son marché. Thierry Desmarais a également affronté de graves crises comme la marée noire de l'Erika sur les côtes du Finistère en 1999 et puis l'explosion de l'usine ACDF à Toulouse en 2001. On lui avait alors notamment reproché lors de ce drame sa réaction en froid technocrate face à l'émotion. Polytechnicien et ingénieur des mines, il était plus à l'aise face aux analystes qu'aux journalistes.
Éric Mauban en direct. Un peu mieux que prévu finalement, la croissance française serait de 0,2% au quatrième trimestre 2023 et non pas 0,1. Les services marchands et l'industrie manufacturière se sont mieux portés. Le bâtiment souffre en revanche. Comment rester la première destination touristique mondiale? C'est la question au cœur du sommet Destination France, dont la deuxième édition a lieu aujourd'hui au château de Chantilly dans l'Oise avec Emmanuel Macron. 200 chefs d'entreprise sur place, dont une moitié d'étrangers. Certains comme JP Morgan doivent annoncer des investissements dans l'industrie touristique française et c'est indispensable pour innover, pour résister à la concurrence grandissante des autres pays touristiques, estime Patrick Visseria, président de l'Association française des experts du tourisme.
On est sur des investissements de plusieurs milliards d'euros par an. On a des investisseurs au plan national, la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires. Mais il faut aussi aller chercher du côté du secteur privé et sans doute auprès d'un certain nombre d'investisseurs étrangers, des interventions plus importantes que celles qu'on a eues jusqu'à présent. On a besoin de préparer l'avenir sur la décarbonation de l'économie touristique. On regarde par exemple les investissements qui sont réalisés par le Club Med. Le Club Med est en train de rénover une partie de ces villages pour les rendre beaucoup moins consommateurs d'énergie que les précédents équipements.
Une affiche 5 étoiles ce soir de la NBA à Paris. Un match de basket entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets. Signe d'une volonté de la Ligue américaine de basket de miser sur la France. La NBA qui a par ailleurs annoncé la diffusion à partir du 20 janvier d'un match du championnat de France une fois par semaine sur son application. Pour elle, pour la NBA qui pèse 7 milliards de dollars annuels de droits TV, se rapprocher de la France, venir à Paris, c'est un moment clé. Éric Kioch.
Ambiance à l'américaine, mais sur le parquet de l'Accor Arena de Bercy. Pour la quatrième fois, la salle parisienne accueille un match de NBA, une fête du basket qui va au-delà du sport, décrypte l'économiste Vincent Chaudel.
C'est juste de la réaffirmation de la puissance de la NBA. Elle utilise de nombreux moyens, dont les matchs de saison régulière. Surtout s'assurer que les Français passionnés de basket vont vouloir regarder jusqu'à la fin de la saison régulière ce championnat.
La France n'est pas un choix anodin, c'est le premier marché européen de la NBA avec 3 à 4 millions de fans, numéro 1 en vente de maillots, en abonnés sur les réseaux sociaux et des audiences en constante progression.
C'est aussi un intérêt économique certes, mais un intérêt sportif. Il y a beaucoup de joueurs français dans les équipes de NBA.
Et dans sa conquête de la France, la NBA a un allié, le PSG. On ne compte plus les stars du basket qui ont visité les locaux du club et Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, pose régulièrement avec eux en France ou aux États-Unis. Jean-Pascal Gaillan, économiste du sport.
La NBA cherche à avoir une assise mondiale. Il y a sans doute des intérêts concordants, surtout si on réussit à s'autopromouvoir entre la NBA et le Paris Saint-Germain.
Paris est d'ailleurs la seule ville au monde hors Amérique du Nord à accueillir ces matchs officiels de NBA.
Éric Kioch, une nouvelle victime dans le prêt-à-porter, c'est l'enseigne Pimkie qui va lancer un nouveau plan social. Après des difficultés financières, son actionnaire historique, l'association familiale Mullier, a vendu la chaîne d'habillement au consortium Pimkie Vest en février 2023. Aujourd'hui, 50 magasins seraient menacés en raison de la baisse de fréquentation et des ventes. Et Julie Drouin, c'est une victime de plus dans un secteur sinistré.
Cela fait 37 ans que Marie-Annick Mercer travaille chez Pimkie comme vendeuse dans un magasin de Brest. Et cela fait 2 ans et demi qu'elle voit l'enseigne s'enfoncer dans la crise.
Moi, j'ai connu les années Pimkie, on était copiés, on était enviés. Et puis, en fait, on est passé carrément de l'autre côté de la barrière. On a eu beaucoup de salariés qui sont partis en burn-out parce qu'elle tenait plus le coup. Et c'est très dur de se projeter pour après.
Une crise qui touche toutes les marques historiques françaises. Camailleux, Naf-Naf, Sand Marina... En 13 ans, le secteur a perdu près de 46 000 salariés. La pandémie de Covid a fait beaucoup de dégâts, l'inflation aussi. Et au final, les consommateurs ont changé leurs habitudes vers l'achat en ligne à bon prix. C'est ce que nous explique l'économiste de la mode, Gildas Mainviel.
On a une consommation de crise qui malheureusement semble s'installer avec le premier prix qui devient un déterminant de consommation. On a des nouveaux acteurs comme Shein et puis les considérations d'éco-responsabilité, de sobriété. Tout ça sont des éléments qui ne vont pas dans le sens d'une consommation boulimique telle que celle que l'on a pu connaître lors des années 90 ou 2000.
Le secteur enfin est impacté par la montée en puissance de la seconde main, un marché qui pèse aujourd'hui 6 milliards d'euros et que les grandes marques commencent à investir.
Et puis quel est le principal risque pour l'humanité en 2024 ? Réponse, la désinformation, selon l'analyse du sommet de Davos qui se tient la semaine prochaine. Fabrice Domange préside le courtier d'assurance Marche France qui a réalisé cette étude.
La désinformation, elle peut nuire à la réputation et à la crédibilité d'entreprise. Lorsque des fausses informations circulent sur votre entreprise, ça peut entraîner une perte de confiance de la part de vos clients, des investisseurs, du public en général. Ça peut aussi avoir un impact négatif sur les ventes, sur les produits que vous voulez vendre, sur la valorisation de l'entreprise, même entraîner une confusion pour les employés, en fait, qui entendraient des choses qui seraient fausses et qu'il faut vite corriger très très vite. À grande échelle, elle peut créer de l'incertitude, avoir un impact sur les marchés financiers, les politiques gouvernementales et les relations commerciales internationales.
Un mot des marchés financiers dans le vert hier à Wall Street, plus 1,5% pour le Dow Jones, plus 0,75% pour le Nasdaq, le CAC 40 est resté stable, le Nikkei gagne presque 2% en ce moment à Tokyo. Il est 6h58.